Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. L'UNESCO a inauguré Subak Bengkel Tabanan en tant que projet pilote d'éco-hydrologie. Ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales présente la stratégie de transition énergétique de l'Indonésie lors de la réunion du Conseil de transition énergétique. Le Conseil mondial de l'eau qualifie le 10e Forum mondial de l'eau de meilleur des 30 dernières années. Continue à mettre en œuvre des protocoles de santé pour être conscient des variantes KP1 et KP2 de la COVID-19, a affirmé le ministère indonésien de la Santé. Tô Lâm est le nouveau président du Vietnam. BAD appelle à une action collective pour le financement des projets d'eau. Voici le journal complet. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation scientifique et culturelle, UNESCO, et le gouvernement de la résidence Tabanan à Bali ont inauguré jeudi 23 mai Subak dans le village de Bengkel, district de Kediri, Tabanan, en tant que lieu pilote pour la mise en œuvre de l'éco-hydrologie. L'éco-hydrologie est une gestion intégrée des ressources en eau qui offre une approche de développement durable. Le village de Subak Bengkel a été inauguré car il a reçu la reconnaissance de l'UNESCO le 15 septembre 2023 comme l'un des sites de démonstration d'éco-hydrologie pour la mise en œuvre de la technologie agricole. Lors de l'inauguration de Subak Bengkel, le résident de Tabanan Sanjaya a déclaré que Subak est une des sagesses locales de Bali en tant que mécanisme d'irrigation agricole qui existe depuis des milliers d'années. L'existence de Subak dans le village de Bengkel, district de Kediri, Tabanan, est un exemple clair de la façon dont cette tradition continue d'être maintenue et appréciée. Le ministre indonésien de l'Énergie et des Ressources Minérales, Arifin Tasrif, a présenté la stratégie de transition énergétique de l'Indonésie lors du 9e événement du Conseil de transition énergétique au niveau ministériel qui s'est tenu en ligne récemment. Les stratégies présentées incluent l'augmentation de l'engagement de l'Indonésie dans le document de l'augmentation des contributions déterminées au niveau national, ainsi que l'explication de la feuille de route des émissions de net zéro pour le secteur énergétique national. Arifin a déclaré que les mesures prises par le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales pour accélérer l'augmentation des contributions déterminées au niveau national consistaient à développer des infrastructures d'interconnexion à travers les réseaux électriques et les gazoducs pour soutenir l'intégration énergétique régionale et le développement économique. Le Conseil pour la transition énergétique est composé d'organisations multilatérales et régionales dans le domaine du développement durable et de finances créées dans le cadre de la 26e conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique. Le Conseil mondial de l'eau qualifie le 10e Forum mondial de l'eau de meilleur des 30 dernières années depuis sa première tenue en 1997 au Maroc. Le personnel expert du ministère des Travaux publics et du logement public PUPR de la République d'Indonésie, Indra Atma Wijaya, l'a transmis lors d'une conférence de presse au Centre des médias du Forum mondial de l'eau 2024 à Nusa Dua, Badung, Bali, jeudi 23 mai. Cité par Info Public, Indra a admis que cette déclaration était une fierté pour l'Indonésie. Il a remercié l'équipe des médias qui a intensément informé le public des résultats du 10e Forum mondial de l'eau. Indra a révélé que jeudi, le nombre de pays impliqués dans le 10e Forum mondial de l'eau était de 160 pays. Il a ajouté que le nombre d'inscrits et de visiteurs présents atteint 50 000 personnes. Selon Indra, le secteur privé joue également un rôle important en soutenant les activités du 10e Forum mondial de l'eau, y compris les médias. Le porte-parole du ministère indonésien de la Santé, Muhammad Syahril, a déclaré que même s'il n'y a aucune preuve que les variants KP1 et KP2 de la COVID-19 provoquent une maladie grave, il est toujours nécessaire de mettre en œuvre des protocoles de santé pour la prévention. Dans une déclaration reçue à Jakarta récemment, Syahril a déclaré que le gouvernement indonésien se méfiait de la propagation des variants KP1 et KP2 de la COVID-19. Il a cité les données officielles du ministère de la Santé de Singapour qui montrent qu'il y a une augmentation des cas de COVID-19 passant de 13 700 cas au cours de la période du 28 avril au 4 mai à 25 900 cas au cours de la période du 5 au 11 mai 2024. Le variant KP détecté dans l'ASEAN circule non seulement à Singapour, mais aussi en Malaisie, en Thaïlande et au Cambodge. En Indonésie, le variant KP n'a pas été trouvé. En examinant les cas de variant KP1 et KP2 à Singapour, Muhammad Syahril a souligné qu'il n'y avait aucune urgence à imposer des restrictions de voyage. C'est ce qu'a révélé un rapport publié par le ministère de la Santé de Singapour. L'ancien ministre vietnamien de la Sécurité publique, Tô Lâm, était élu nouveau président du pays, en remplacement de Vo Văn Tuông, qui a démissionné pour avoir prétendument violé les règlements du Parti communiste. Citant Anadolu, rapporté par Antara, selon un communiqué officiel, les parlementaires vietnamiens ont choisi Tô Lâm après que le Parti communiste de ce pays d'Asie du Sud-Est a annoncé samedi sa candidature. Tô Lâm est auparavant ministre de la Sécurité publique qui l'a quitté avant son élection au poste de directeur général. À la mi-mars, la vice-présidente Vo Thị An a été nommée présidente par intérim après la démission de Vo Văn. Le Vietnam est gouverné par un système politique à parti unique et le président est celui qui occupe les quatre premières positions. Trois autres dirigeants importants sont le secrétaire général du Parti communiste Nguyen Phu Trong, le premier ministre Phan Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Wong Dinh-hu. En août 2010, Tô Lâm a été nommé vice-ministre de la Sécurité publique puis ministre de la Sécurité publique en avril 2016. Les responsables de la Banque asiatique de développement BAD ont déclaré récemment à Bali qu'une action collective des décideurs était nécessaire pour augmenter le financement des projets liés à l'eau. Lors de la table ronde de haut niveau du 10e Forum mondial de l'eau à Badung, Bali, la directrice de l'eau et du développement urbain de la BAD, Neta Pohrel, a déclaré que le financement des projets liés à l'eau peut être obtenu s'il existe une bonne gouvernance de l'eau. Selon elle, la question est très importante à poser et une action collective doit être menée. Pohrel a souligné qu'il est très urgent de convenir du financement de l'eau, car le changement climatique commence à s'intensifier et est ressenti par de nombreux pays. Il a déclaré que sa partie avait réussi à augmenter le financement de 100 milliards de dollars américains, soit environ 1 605 billions de roupies au cours des 10 prochaines années. La BAD s'engage à fournir un financement pouvant atteindre 360 milliards de dollars américains, soit environ 5 761,8 billions de roupies aux pays en développement et au secteur privé au cours de la prochaine décennie. C'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Avantages et inconvénients de la demande d'arrestation du Premier ministre Netanyahou » avec Maudry. Chaque jour tard, la Norvège est devenue le premier pays européen à annoncer qu'elle arrêterait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant, si un mandat d'arrêt était émis par un panel de juges de la Cour pénale internationale, CPI. Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, a déclaré plus tôt cette semaine que si des mandats d'arrêt étaient émis contre Netanyahou et Gallant au nom du tribunal de la Haye, ils arrêteraient les deux hommes s'ils entraient sur le territoire norvégien. Auparavant, le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, avait déclaré qu'il avait déposé des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, le chef du bureau politique du Hamas Ismaël Haniyeh, le chef de la branche militaire du Hamas, Mohamed Diab Ibrahim Masri, et le chef du Hamas en la bande de Gaza, Yahya Sinwar. La décision d'émettre le mandat reviendra à trois juges de la CPI qui évalueront les preuves présentées par le bureau de Cannes. Le mandat d'arrêt de Netanyahou, soumis par la Cour pénale internationale, a reçu le soutien de la France et de la Chine. Le gouvernement français a déclaré dans son communiqué officiel qu'il soutenait la CPI, son indépendance, sa lutte contre l'impunité dans toutes les situations. Le gouvernement français a également déclaré qu'il mettait en garde depuis des mois sur la nécessité de respecter strictement le droit international humanitaire, en particulier sur le niveau inacceptable de victimes civiles dans la bande de Gaza et le manque d'accès humanitaire. Par ailleurs, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d'une conférence de presse de routine à Pékin en Chine, mardi 21 mai, a souligné le soutien de la Chine aux efforts de la communauté internationale pour résoudre la question palestinienne de manière complète, juste et durable. Wenbin espère que la CPI maintiendra une position objective et équitable et s'acquittera de ses fonctions conformément à son autorité. Il a souligné que les punitions collectives contre le peuple palestinien ne devaient plus perdurer. Contrairement à la position de la France et de Pékin, le président américain Joe Biden a fermement rejeté la demande d'arrestation et a qualifié la décision de la CPI de scandaleuse et s'est engagé à soutenir Israël à mesure que le processus judiciaire progresse. Biden a également critiqué la décision du procureur Khan d'assimiler les positions d'Israël et du groupe militant palestinien Hamas, dont trois dirigeants figurent également sur la liste des demandeurs de mandat d'arrêt de la CPI. L'existence d'avantages et d'inconvénients entre les principaux pays du monde rendra certainement impossible la résolution de la question de l'occupation de la bande de Gaza par Israël. Même si plus de 35 000 Palestiniens ont été tués et près de 80 000 personnes ont été blessées depuis qu'Israël a attaqué la bande de Gaza en octobre de l'année dernière, il faut une vision commune et un sens élevé de l'humanité de la part des parties concernées pour mettre immédiatement un terme au conflit dans la bande de Gaza. Bon, cher Jouitard, c'est tout, le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui. Je commence l'histoire aujourd'hui avec les événements du 24 mai 1956, la première édition du concours Eurovision de la chanson a eu lieu en Suisse. Ce concours est souvent connu sous le nom d'Eurovision, est un concours international de chansons organisé chaque année par l'Union européenne de radiodiffusion, une union d'institutions de radiodiffusion européenne. Chaque pays participant soumet une chanson originale à interpréter en direct et le gagnant est déterminé à la majorité des votes. Le concours de la chanson a eu lieu pour la première fois en 1956 avec 14 pays participants. La finale du concours a eu lieu le 24 mai 1956 à Lugano en Suisse. La chanson refrain de la chanteuse suisse Liz Asia a été désignée gagnante du premier concours Eurovision de la chanson. Le 24 mai 1989, la Coupe Sudirman a eu lieu pour la première fois. La Coupe Sudirman est un championnat international de badminton pour les épreuves par équipe mixte participées par les pays membres de la Fédération mondiale de badminton tous les deux ans. Ce championnat dispute le simple masculin, le simple féminin, le double masculin, le double féminin et le double mixte. Le nom Sudirman est tiré du nom de la figure indonésienne du badminton, Dick Sudirman. Il est l'un des fondateurs de l'Association indonésienne de badminton. La Coupe Sudirman a été initiée par l'Indonésie en 1986 et s'est déroulée pour la première fois à Istora Senayan, Jakarta, du 24 au 29 mai 1989. Dans ce championnat, l'Indonésie a réussi à devenir championne en battant la Corée du Sud avec un score de 3-2. Je termine l'histoire aujourd'hui avec les événements du 24 mai 2002. Les États-Unis et la Russie ont signé le traité de Moscou, le traité de réduction stratégique offensive, également connu sous le nom l'accord de Moscou, est un accord entre les États-Unis et la Russie signé le 24 mai 2002 à Moscou en Russie. Dans cet accord, les deux parties ont convenu de limiter leur arsenal nucléaire entre 1700 et 2200 ogives chacune déployées opérationnellement. Le traité de Moscou fait partie d'une série d'accords sur le désarmement nucléaire commun entre les États-Unis et la Russie, ainsi que son prédécesseur, l'Union soviétique. L'accord est en vigueur en juin 2003 jusqu'à février 2011, date à laquelle le nouvel accord START est entré en figure. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Getar asmara pun pudar di dalam dada, dan di antara kita telah tak ada rasa saling seia sekata.
Usah lagi berpisah jauh.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Bonsoir, voici Mon Indonésie et pour le titre, le ministère de l'Industrie organise une formation sur la transformation de la noix de coco pour les pays des Caraïbes. Le ministère de l'Industrie a organisé une formation pour accroître la capacité de diversification de la transformation des produits à base de noix de coco pour les représentants des pays des îles des Caraïbes. La formation de capacité s'est déroulée du 21 mai au 4 juin 2024 à la Polytechnique de la TI Padang à l'ouest de Sumatra. La formation a réuni 19 participants des pays des Caraïbes, à savoir la Barbade, Cuba, Grenade, Guyane, Saint-Pétersbourg, Kitts et Nevis, Saint-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, le Suriname et les Bahamas. Cité par l'agence de presse Antara, 22 mai, le ministre de l'Industrie Agus Gumawang Kartasasmita à Jakarta mercredi 22 mai a déclaré que l'industrie de la noix de coco en Indonésie a un grand potentiel et a fait ses preuves dans la fabrication de produits transformés à base de noix de coco de haute qualité. Selon Agus, cela a incité d'autres pays à s'intéresser à la gouvernance de la transformation en Indonésie. Le ministre Agus a également déclaré que le ministère de l'Industrie continue d'encourager les produits de la noix de coco en aval en raison de son potentiel abondant en Indonésie. Pour cette raison, une feuille de route en aval de la noix de coco est actuellement en préparation pour le développement d'un écosystème intégré de la noix de coco. Le ministre de l'Industrie estime que dans le programme en aval de la noix de coco, la compétence des ressources humaines de l'industrie de transformation du secteur concerné est un facteur important qui soutient le succès. Par conséquent, en augmentant la capacité des pays amis, l'Indonésie joue un rôle dans le développement de l'industrie mondiale. Pendant ce temps, le chef de l'Agence de développement des ressources humaines industrielles, BPSDMI, du ministère indonésien de l'Industrie, Mas Rohan, a expliqué que les 19 participants venus de pays de la région des Caraïbes étudieraient plusieurs produits transformés à base de noix de coco, tels que l'huile de noix de coco, la nata de coco et la transformation du lait de coco. Les participants ont également acquis des connaissances liées au contrôle de la qualité, à la normalisation de la sécurité alimentaire et à l'emballage. Selon Mas Rohan, ce programme est en forme d'engagement du ministère de l'Industrie à développer l'industrie nationale en fournissant des ressources humaines industrielles compétentes ainsi qu'en partageant des expériences et des capacités avec des pays amis pour renforcer le rôle de l'Indonésie sur la scène mondiale. C'est Judith, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap,
telah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersama dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah kau menjadi temanku, sudilah kau menjadi. Istriku.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée Bali figure sur la liste des destinations touristiques d'été 2024 les plus attractives, avec Maudrey. Chers auditeurs, Bali est la destination touristique la plus attrayante pour l'été 2024, avec sa combinaison de beauté naturelle, d'aventures en montagne, de cultures riches et de vie nocturne animée. Bali offre une expérience inoubliable à tous les types de touristes. Bali figure sur la liste des 10 destinations touristiques estivales les plus attractives de juin à août 2024. La liste a été publiée par le Mastercard Economic Institute, MEI, sur la base des données de réservation de vol. Schwarzwald, Munich, en Allemagne, occupe la première place car elle accueillera le tournoi de football de l'UEFA Euro 2024 en juin prochain. Les réservations de billets d'avion augmenteront donc également. Bali est classée 6e destination touristique la plus attractive pour la saison estivale 2024 après Munich, Tokyo, Tirana, Nice et Cancun. Selon le rapport, Bali fait partie des trois principales destinations des voyageurs des Philippines et de Malaisie. En dehors de cela, les touristes d'Australie, de Corée du Sud et du Japon ont également choisi Bali comme destination attractive au cours de l'été prochain. Sajouetar, pendant ce temps, Bangkok, Kerkira, Francfort et Oranjestad sont classés dans le top 10 après Bali. Bali ne se résume pas seulement à sa beauté naturelle, mais aussi à son riche patrimoine naturel et historique. Les touristes peuvent visiter d'anciens temples disséminés dans toute l'île, comme Purabsaki, considéré comme le plus grand lieu de culte hindou de Bali. Les danses traditionnelles balinaises, telles que la danse kecha et la danse barong, peuvent également être appréciées par les visiteurs, leur faisant découvrir la beauté des arts du spectacle balinais. Bali est également connu pour sa vie nocturne colorée, des discothèques animées de la région de Seminyak aux fêtes animées sur la place de Kuta. Il y en a pour tous les goûts la nuit à Bali. Mon cher Jolitar, c'est tout. L'Indonésie en couleur. Serge Litard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de Magazine Culturel. intitulé Wastra Indonesia au WWF Bali avec moi Audrey. Serge Itard, lors du 10e dîner des bienvenus du Forum mondial de l'eau dimanche dernier, le président Joko Widodo et les chefs d'État ou leurs représentants portaient des uniformes fabriqués à partir du tissu tissé Kalimantan Sintang. Ce tissu est connu pour avoir des motifs uniques, des matériaux raffinés et des méthodes de fabrication qui maintiennent les valeurs traditionnelles inspirées de l'environnement, telles que les rivières, les animaux et les plantes. La fabrication du tissu Sintang utilise également des métiers à tisser traditionnels avec des matériaux et des teintures de fils provenant de matériaux naturels tels que des feuilles, des racines, des fruits ou des graines de plantes forestières. Pour réaliser de jolis motifs, ce tissu tissé est réalisé sur 3 mois. Pendant ce temps, les ministres indonésiens et les délégations équivalentes aux ministres portaient des vêtements en tissu baliné ende. Le tissu ende est un tissu tissé traditionnel fabriqué selon le système de tissage ICAT, notamment en nouant les fils de trame et de chaîne. Par conséquent, ce tissu est également souvent connu sous le nom de tissu baliné ICAT tissé endek, vient du mot gendekan ou ngendek, qui signifie silencieux, fixe ou ne change pas de couleur. Ce mot décrit la confection de motifs endek en les attachant. Une fois teint, la couleur du fil noué ne change pas. Actuellement, la fabrication du tissu endek a suivi l'évolution de son temps en utilisant la technologie de l'aérographe. Cette avancée dans le monde du tissage permet de raccourcir le processus de préparation de la production de 2 à 4 jours ouvrables sans réduire la qualité du tissu endek. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le magazine culturel.
Sebelum cintamu semakin
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Java occidental intitulée Mojang Priangan. Ce jeu étant les paroles de la chanson littéralement intitulée Mojang Priangan raconte l'histoire d'une femme de l'ouest de Java qui est pas seulement belle mais qui a aussi de bonnes manières. Cette chanson décrit comment le comportement simple et beauté de la fille Priangan et sa façon de s'habiller rendent les gens qui la regardent encore plus fascinés. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Java occidental intitulée Mojang Priangan. Bonne écoute.
Dear
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.